Bien.
Alors, on avait vu donc un passage la semaine dernière où on avait vu que le cher Shmuel était caché dans les bagages, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui ont les textes, pas les textes? Oui. Alors. Passe. Il y a plein de textes. Hein. Bien. Alors, chapitre Yud. Chapitre Yud. Le verset Kafbet. Bon, alors on a vu hein, plusieurs fois. Donc, chapitre Yud, verset Kafbet, c'est bon? Vaishalu od bashem. Donc, ils ont tiré au sort devant tous les enfants d'Israël. Ils ont tiré au sort devant tous les enfants d'Israël. Est-ce que... oui, et c'est Shaoul. Le tirage au sort a montré que c'est Shaoul qui a été désigné par Dieu comme premier roi. Mais il le cherche partout, il ne le trouve pas. D'accord ? Bien. Verset Kafbet. Vaishalu od bashem, ils ont demandé encore à Dieu, Abba od alom ish, est-il venu encore ici cet homme ? Vayomer Hashem, Dieu dit, Iné ou Nerba et la Kélim, il est caché dans les Kélim. Ok, oui. Il est caché dans les Kélim. D'accord ? Ça, on a fait deux études là-dessus. Il est caché dans les Kélim. Nous avons vu la semaine dernière que cette thématique des Kélim est absolument fondamental, comme nous l'avons vu dans Bereshit, Parashat Vaishlach. La Torah, à la fin de Parashat Vaishlach, nous rapporte les rois qu'il y a eu chez Esav. Il y a eu 8 générations de rois chez Esav. Et la tradition orale nous dit, le Tikkuné Zohar nous dit, que ces rois de Ésaü, c'est ce qu'on appelle les générations de Shvirat HaKelim, de brisure des réceptacles. Si vous voulez, c'est comme si le monde avait été créé bon et c'est les actes de certains hommes qui ont abîmé le monde. Qu'il y a quelque chose de tov. D'ailleurs, on voit quand Dieu a créé le monde, il dit « Iné tov meod ». C'est très bon. Et c'est Ésaü particulièrement, Esav, qui a cassé le monde. Sa dimension de briser, casser, voilà. Ce qu'on appelle, dans la terminologie des Rachamim, Shvirat HaKelim. Et Rashi fait allusion à ça, qu'à partir de la nomination du roi Shaoul, il y a la dimension que nous voyons ici des Kelim. C'est-à-dire, il ne force pas les Kelim, il ne casse pas les Kelim, il ne casse pas les ustensiles. Et il y a ces dimensions de pudeur sur lesquelles nous avons deux soirées, on a passé là-dessus, donc je ne vais pas encore reprendre. Mais il y a aussi, c'est une thématique absolument fondamentale que dans la vie quotidienne du peuple juif, le Shabbat est, dans une certaine mesure, cette dimension de reconstruction du monde par le Shabbat, comme on voit quand on fait le kiddush, on dit Vayechulu Hashamayim Vaharetz Vechol Sevaam, ont été terminés les cieux, Vayechulu Hashamayim Vaharetz, les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Voilà, Vayechal Elokim Vayashvi, et l'Éternel a terminé le septième jour tout ce qu'il avait fait. D'accord ? Vayechulu Hashamayim, la racine du mot Vayechulu, le Midrash Rabba dit que quand arrive le Shabbat, les cieux et la terre deviennent des kélim, deviennent des réceptacles. C'est-à-dire que on pourrait dire, il fonctionne comme ça, de manière aveugle, mais c'est par le Shabbat où on arrête d'agir, qu'on insuffle une pensée dans nos actions. C'est en arrêtant qu'on insuffle une pensée, et la pensée va faire que le monde va devenir un outil à notre pensée. C'est ça la dimension de Keli. Keli, on peut le traduire dans une première traduction réceptacle, mais on peut aussi traduire Keli par outil. Voilà. Le monde est l'outil de notre pensée. C'est une matière à notre pensée. Et où commence cette dimension que on pourrait dire d'une présence au monde et pas d'une absence au monde, c'est dans la nomination du roi Shaoul, qui est Nerba et la Kélim, qui est caché dans les Kélim, c'est-à-dire qu'il est il ne casse pas ses Kélim. Donc c'est, on pourrait dire, avec Shaoul commence cette thématique. Je pense que vous avez déjà tous et toutes entendu parler de ça. C'est ce qu'on appelle le tikkun, la réparation, la construction. Voilà. Commence une dimension de construction. Voilà. Et on va voir ce soir qu'est-ce que ça veut dire construire. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer dans les versets. Verset Kav Gimel, chapitre Yud, verset Kav Gimel. Voilà. Vayarutsu, vayakaru misham, vitsyatsev betor aam, vaigba mikol aam, meshirmo vamala. Ils coururent, ils le prirent de là-bas, donc du vestiaire, il était caché au vestiaire. Ils le prirent de là-bas, vitsyatsev betor aam, il se dressa au milieu du peuple. Vaigba mikol aam, et il fut plus haut que tout le peuple, meshirmo vamala, en stature et en qualité. C'est-à-dire, ils virent qu'il y a une dimension royale. Une dimension royale. Vayomer Shmuel, El Kolaam, Aroitem Hashem Bacharbo Hashem, Ken Kamou Becholaam, Vayariou Kolaam, Vayomru, Yochi Ameler. Shmuel dit à tout le peuple, avez-vous vu celui en qui Dieu a choisi? Il n'y a pas comme lui dans tout le peuple. Le peuple a exulté, on dit en bon français comme ça, Vayomru, et ils dirent, Yochi Ameler, en français,
vive le roi.
Et en italien,
vive le
roi. Comment?
Vive le roi.
Voilà. Et vive le roi. Verset 25. Alors maintenant, 25, je vous passe la feuille d'après. « C'est bon? Verset Kaf et. Vaidaber Shmuel el Aham et Mishpat Amelucha, Vaichtov Basefer, Vayana Lifne Hashem, Vayeshalar Shmuel et Kolaham Ish le Beto. Donc on vient de voir la présentation officielle devant tout le peuple juif du roi Shaoul. Shmuel parla au peuple du statut de la royauté. Vayirtov Basefer, il a écrit dans un livre. En français, ça s'appellerait comment ça? Je traduis encore une fois. Vaydaber Shmuel el Aham et Mishpat Amelucha. Shmuel parla à tout le peuple du statut de la royauté et il est écrit dans un livre. Oui. Comment? Oui. Ouais. Ah, la Constitution, très important. Il a écrit la Constitution. Quels sont les statuts juridiques du roi et de la royauté? Constitution. C'est extrêmement important. Regardez, c'est quand même. Il faut quand même voir que ces textes sont multimillénaires. C'est multimillénaire. C'est impressionnant quand même qu'il y a. C'est une monarchie constitutionnelle avec une constitution. C'est écrit dans le verset. C'est très très important. C'est-à-dire, il y a le roi, il y a un roi, mais le roi ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi, et le peuple ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Il y a des lois mutuelles. Et il a écrit, on vient de présenter le roi, constitution. Vayana lifne Hashem, et il a posé la constitution devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, il a posé la constitution devant Dieu? Non. Mais partout c'est devant Dieu, je ne comprends pas. Il a posé la constitution devant Dieu. Il place n'importe où, c'est devant Dieu, non? C'est vrai que ça veut dire cet embrouille.
Il a été élu par Dieu, donc. Comment dirais-je?
Il officialise.
Voilà.
Bah, c'est fait. Regardez, on peut gommer ces mots-là.
C'est ça la Constitution.
Voilà, il a écrit dans un livre.
En deux mots, il a dit qu'il a fait toute la Constitution.
D'accord. Vayana lifne Hashem, il a posé devant Dieu. Ça veut dire quoi? Hein, c'est bizarre. Alors je pense que ça veut dire il l'a placé dans le tabernacle. Hein, il l'a placé l'Ifne Hashem dans le tabernacle. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Parce qu'en vérité, l'arche d'alliance a été prise par les Philistins. Il n'y avait pas l'arche d'alliance. On l'a vu dans le chapitre, on l'a vu avant. On l'a vu dans le chapitre d'avant. Non, au début de ce chapitre. Au début du chapitre Yud, que l'arche était prise par les Philistins, il n'y avait pas l'arche. Donc, dans il a placé à l'intérieur du tabernacle. Voilà. Vayeshala Shmuel et Kolam, Ish le Beto. Shmuel a renvoyé tout le peuple, chacun chez lui. Bon, ben c'est fini, on rentre à la maison, d'accord? C'est comme ça, c'est la grande fête. Et quand c'est fini après la fête, ben, chacun rentre à la maison. Regardez ce verset suivant, le verset suivant. Il est extraordinaire. Je sais si vous voyez où c'est, vous avez le matos, le matériel pédagogique. Donc chacun rentre chez soi, d'accord? Verset Kavvav. Vegam Shaul alar le beto givata vayelchu imo achayil Asher Naga Elohim Belibam. Et Shaoul, eh ben, lui aussi rentre chez lui. Après tout ça, ben, lui aussi, il rentre chez lui. Il prend son scooter, il rentre. Hein. Et aussi, Shaoul alla chez lui, Givata, sur la colline. Vous savez, à Jérusalem, il y a un endroit qui s'appelle Givat Shaoul, hein, la colline de Shaoul. Alors, je ne sais pas si c'était là-bas sa maison, mais ça, son lieu qu'on voit tout le temps, c'est la colline, Givat Shaoul, la colline de Shaoul. Il retourne chez lui. Vayelchu imo achayil, aller avec lui à Chayil. C'est quoi Chayil? Oui. Le comment? Chayil, on va Echet Chayil, n'est-ce pas? Hein? Le Chayal en hébreu moderne, c'est les soldats. Mais Chayil, c'est l'armée. Voilà. Vayelchu imo à Chayil, allèrent avec lui à Chayil, l'armée, Asher Naga Elohim Belibam, qu'a touché Dieu dans leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Oui. Comme on dit en yiddish, noch einmal. Ouais, hein? Comment? Parlez pas yiddish?
Non,
je blague. C'est encore une fois, c'est Aouda. Voilà. Alors, encore une fois, ça c'est une expression très bizarre du verset, je reprends, c'est très important. Donc c'était la grande fête, tout le monde était là, par le souffle céleste a été désigné le roi, d'accord. Ben, une fois que c'est terminé, ben, on rentre à la maison, d'accord. Chacun rentre. Et le verset dit, « Vegam Shaoul alla le beto givata » et Shaoul aussi alla vers sa maison sur la colline. Et le verset dit des choses, des mots bizarres. Vayilchu imo achayil, allèrent avec lui l'armée, Asher Naga Elohim Belibam, que Dieu a touché dans leur cœur. Alors, avant de voir les commentaires, qu'est-ce que vous ça veut dire? Comment vous expliqueriez ça?
L'armée était avec Shaoul,
que Dieu a touché dans leur cœur. Que Dieu a touché dans leur cœur. L'armée ou la vaillance, Chayil, la vaillance, hein, comme Eshet Chayil, la femme vaillante, d'accord? Chayil, c'est la puissance. Chayil, la puissance, alla avec lui l'armée ou la puissance que Dieu a touché dans leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Sors. Pourquoi c'est un peu sombriné, là? Hein?
Peut-être qu'il y avait des gens qui savaient que...
Un peu plus de lumière.
Il y a des gens qui ont...
Là, il y a moins de lumière. Hein. Vous avez remarqué. Il y a tout d'un coup, il y avait moins. Fais une expérience, une seconde. Ça, c'est moi. Hein. Alors, on va essayer de se débrouiller.
Oui, alors, allons-y.
C'est des gens qui ont décidé de le suivre.
Pourquoi vous dites comme ça?
Ah, parce que peut-être les autres... Non,
non, allez-y.
Certes, dans la Constitution, il n'y avait pas vraiment une désignation des gens qui devaient escorter le roi. Donc c'était des gens qui ils ont senti l'envie de les suivre, de les protéger. De...
C'est ça. Oui, vous voulez
c'est
dire
ça, ils ont été sélectionnés tout le monde ne devait pas y aller. Certains...
Mais pourquoi que Dieu a touché dans leur cœur? Alors, dans le texte, hein, donc là vous avez le texte, pour ne pas faire trop de texte, je vous ai photocopié le texte des versets, point. Dans, dans l'édition avec les commentateurs, il y a la traduction en araméen de Yonatan ben Uziel. Dans la Torah, les cinq livres de la Torah, la traduction en araméen, c'est Onkelos ben Kalonimos. Onkelos ben Kalonimos, c'était le neveu de Titus qui s'est converti, qui est devenu un élève, un codisciple de Rabbi Akiva chez Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et il a traduit la Torah en araméen, c'est la version, on pourrait dire, talmudique de la traduction de la Torah. Bien. Sur les prophètes, c'est pas Onkelos, c'est Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, c'était une ou deux générations avant, c'était un élève de Hillel. C'était 100 ans avant. 100 ans avant Rabbi Akiva. Voilà. 100 ans avant, c'est Yonatan ben Uziel. Et comme la langue à l'époque, ils parlaient araméen. Ils ne parlaient pas hébreu. Hein. La langue, c'était l'araméen. Donc, ils ont traduit en araméen. Alors, Rashi rapporte là, la traduction de Yonatan ben Uziel qui traduit un peu comme a dit Rivka, verset Kavav, que l'armée que Dieu a touchée dans leur cœur. Je vous lis en araméen et je vais vous traduire. Gavrin de chale dat rata'a de yev da chala min kadam Hashem belibéon. Je ne pense pas que vous ayez compris. Parlez araméen ?
Pas encore.
Pas encore ? Hein ? Bon. Alors, ça veut dire les puissants, les hommes vaillants, qui craignent la faute, qui ont mis la crainte de Dieu dans leur cœur. Ça veut dire, ici, ce verset est très impressionnant, parce que on a vu, depuis le début qu'on étudie, on fait nos études sur Shmuel, on voit que Shaoul, on ne sait pas trop comment le placer. D'un côté, on voit qu'il a une noblesse extraordinaire. Et d'un autre côté, on voit qu'il est humble. C'est bizarre. Alors, Dieu a nommé devant tout le monde Shaoul. Ok, la fête est finie, tout le monde rentre. Le roi, il rentre à la maison. Mais les gens, ils n'ont encore pas connecté vraiment que c'est celui que Dieu a désigné. Il y a des gens, et surtout, si vous voulez, je ne sais pas, moi, on nomme quelqu'un. Il y a des gens, ils sont un peu, je ne sais pas, jaloux. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi moi, je suis meilleur que lui? Je ne sais pas, moi, imaginez, je ne sais pas, Mélenchon qui va être élu. Non, je blague. L'autre, il dit, ouais, pourquoi lui, pas moi? Dès qu'il y a du pouvoir, et puis qu'est-ce qu'il a, lui? Alors, il est nommé par Dieu. Justement, Shmuel, il n'a rien dit de spécial. Il y a la Constitution, ok. C'est pas écrit dans la Constitution, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y en a, ils ont réfléchi, ils ont dit, attention, mais c'est celui que Dieu a désigné. C'est lui le roi. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Qu'ils ont fait une démarche. C'est des gens que la crainte de Dieu, ils ont... Gavrin, les puissants, c'est des gens qui ont fait un effort avec eux-mêmes pour réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer. Et peut-être ils n'avaient pas forcément envie de l'accompagner. On a tous quelque chose à faire. Mais le Chayil, c'est traduit, Yonatan ben Uziel, Gavrin, puissant, des gens puissants, dans la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont réalisé au fond de leur cœur, que la crainte de Dieu a touché au fond de leur cœur. Attends une seconde, qu'est-ce qui se passe là? Il a été nommé par Dieu comme roi, mais on ne peut pas laisser comme ça, il faut l'accompagner. Donc c'est des gens, ils ont fait une démarche. Mais ici, le verset dit, faire une démarche, ça demande une puissance. de réflexion, d'intériorité, et aussi de... On a tous quelque chose à faire. Après ça, je ne sais pas, il y en avait un, peut-être, sa femme lui dit, bon, quand c'est terminé, tu vas au champ et tu achètes des pampers. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a d'un côté, il y a le roi, on ne peut pas le laisser tout seul. D'un autre côté, il faut que j'aille au champ, ça ferme à 22h. Ouais, acheter des pampers. Non, si vous voulez, on a tous quelque chose à faire. Alors, il y en a, la crainte de Dieu a touché leur cœur. Il fallait aller vraiment au fond de son cœur pour comprendre qu'est-ce qui se passe et accompagner Shaul. C'est un verset très, très émouvant, impressionnant, et je pense qu'il nous apprend quelque chose aussi dans notre existence. Il peut y avoir des choses qui se passent, et ça nous demande pour nous un effort, une intériorisation et une puissance intérieure pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et agir. Pas seulement comprendre, et agir. C'est pour ça que le verset dit « Achaïl, des gens puissants, puissants que la crainte de Dieu touchait au fond de leur cœur. » Et on voit aussi, regardez le verset suivant qui est aussi très émouvant, verset Kavzaïn. « Ou bené Belial amrou ma yoshienouze vayivzou velo eviou lo mincha vayei kemacharish. Ou bené Belial. » Qu'est-ce que ça veut dire, Belial? Vous connaissez le mot Belial? Analysons le mot. Comment? Oui, Belial, oui. Sans O, très bien. Mais Belial, très bien. Sans O, ça veut dire aussi Belial, sans joug. En français, on dit sans foi ni loi. Il y avait des gens sans foi ni loi, voilà. Des gens sans foi ni loi, en français, on dit Amrou, ils ont dit Ma Yoshienouze. Ben lui, il va nous sauver. C'est lui qui va nous sauver. Ils ont vu, comme on a dit depuis moult fois, que c'était quelqu'un de pudique. Et ils ont dit quoi, ils auraient voulu, Schwarzenegger, quoi, Conan le barbare, Monsieur Muscle, le champion de bodybuilding number one, avec tatoué, des tatouages partout. Ouais, maman, hate, machin. Comment dire? Qu'ils auraient voulu, qu'est-ce qu'il y a, il y a dit quoi? C'est lui, il va nous arranger quelque chose. Ils ont rigolé, ils ont dit c'est qui celui-là? Et ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués. Vaïvzou, vélo et viou lo mincha. Ils l'ont pas apporté de mincha, ça veut dire quoi, mincha? Comment? Offrande, très bien. Ils l'ont pas offert de cadeau parce que. Ils ont dit quoi, c'est quoi celui-là, c'est quoi celui-là, mais qui sait, ouais. Et ils se sont moqués de lui. Vayehi kemacharish, traduisons. Ah, je vous fais bosser ce soir. Et toc.
Il a fait la sourde.
Comment? Très bien. Comment c'est le mot? Oui, tu peux analyser le mot. Kheresh, c'est sourd. Il s'est fait sourd. Ouais. Alors, là, regardez. Ce mot-là, vaïe kemacharish, nos maîtres disent la royauté de Shaul était foutue. C'est foutu. C'est loupé. Parce que le roi, il n'a pas le droit de concéder l'honneur qui lui est dû. Il y a une mitzvah de la Torah d'honorer le roi. C'est une mitzvah de la Torah d'honorer le roi. Et là, il aurait dû prendre sa responsabilité. En tôle, tac ! Claude Guéant, schlac ! En tôle. Ouais. Là, il aurait dû... Là, si vous voulez, le... Et ça, c'est très important que... Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu voulait en nommant Shaoul. On a du mal à comprendre parce que d'un côté, on voit c'est le meilleur du peuple juif. On vient de le voir, trois versets. C'est le meilleur du peuple juif. On vient de voir Nerba et la Kélim. Il est caché dans les Kélim, dans les réceptacles. On a vu très grande qualité. C'est très grande qualité. On voit même que ce verset et même le début, on pourrait dire, presque de la réparation de la faute qui a commencé avec la faute d'Adam. Ici commencent les choses à émerger. Mais tout de suite, il passe le. Ça veut dire, il a été, on pourrait dire, esclave. Il a été esclave de sa pudeur. La pudeur, c'est, on a vu, c'est une qualité fondatrice. Mais, justement, les kélim, la dimension des kélim, c'est une dimension que le monde est là pour être l'instrument de notre volonté, l'instrument de notre pensée. Mais pas que nous soyons esclaves du monde. Et là, il a, on pourrait dire, une bonne qualité. Et à un moment, il devient esclave de cette qualité. Il a loupé le coche. Là, il a loupé le coche. Il aurait dû, d'ailleurs, dans la halakha, un crime de lèse-majesté, quelqu'un qui n'honore pas le roi, quelle est sa punition? Comment? On lui coupe la tête. Et on dit, ok, allez. Parce que maintenant, il a une responsabilité et il doit apporter cette dimension centralisante dans le peuple juif. Quelqu'un ne prend pas en compte cette dimension, c'est tout le peuple juif qui est en danger. Tout le peuple juif qui est en danger. Et là, c'est pas qu'il n'a pas entendu. Le verset dit « Vayehi kemar » comme s'il n'entendait pas. Il a entendu. Il aurait dû réagir. Alors on peut se demander pourquoi Dieu finalement...
Ah, mais c'est Shaoul qui a fait semblant de ne pas entendre.
Oui.
J'avais pas compris.
Ah oui.
J'avais compris que
c'était... Faut le dire, si me laissez pas parler, si ça veut rien dire. Là.
Non, parce qu'il n'a pas se montré, il
est
public,
il est
retenu.
Oui.
Je croyais qu'il ne voulait pas les honneurs. En fait,
il voulait pas
le kavod. Il ne recherchait pas
le kavod.
Mais on doit le respecter, l'honorer, c'est ça.
Mais là, maintenant, c'est fini. Maintenant, on a grandi. Maintenant, on n'est plus un bébé. Il vient d'être nommé roi. On passe à autre chose. Ah, regardez, c'est ça la thématique des Kélim. La thématique des Kélim, c'est que le monde, les éléments du monde, sont des instruments pour exprimer quelque chose. Mais si nous, on n'arrive pas à exprimer quelque chose par rapport à ce qu'on vit, eh bien, c'est une destruction. Lui, il a c'est très très bien, il force pas la situation. Mais maintenant, il est dans une... Il a changé de réalité. Maintenant, il est roi, il a une responsabilité. Si tu continues avec ce que tu sais faire, eh bien, finalement... Tu es esclave de finalement de ton caractère. Le caractère, c'est un outil pour faire quelque chose. Mais si moi je réagis toujours de la même manière, et ben même le meilleur des caractères, et bien je deviens esclave de ça. Il force pas son caractère quand il n'y a pas à le forcer, Mais à partir du moment où il a une responsabilité, eh bien, il doit changer son attitude. Là, sa pudeur, sa réserve, son tout ça, c'est bien, mais maintenant, il a autre chose à faire. Il doit asseoir la royauté. Qui n'est pas sa royauté, c'est Dieu qui l'a nommé roi, c'est pas lui. C'est, oui ?
Mais je dis, c'est blasphématoire, quelque part. Ce genre-là, il n'a pas relevé le fait en disant j'ai pas pris le pouvoir moi-même, j'étais et donc en insultant, ils insultent.
C'est pas seulement, donc je reprends ce que vous dites, c'est pas seulement une insulte par rapport à lui, mais par rapport à la volonté de Dieu. Et là, ça passe pas.
Je peux poser une question.
Oui, oui.
C'est ma faute parce que j'étais pas là les deux dernières fois.
Vous avez un mot?
Je voulais savoir. Moi, j'étais restée au moment où il est nommé roi et Shaul le moi. Et moi le moi. Depuis, il a dit quelque chose.
Depuis, il a été de manière prophétique devant tout le peuple juif. Il a été désigné comme roi.
Non, mais Shaul, il a dit quelque chose ?
Non, rien. C'est vrai, il n'a rien dit. C'est bien, ça. Il est...
Donc, il ne peut pas en vouloir aux gens. Alors, comme il ne s'est pas positionné, il ne s'est
oui,
pas
mais le prophète l'a nommé devant tout le monde. Il est nommé.
D'accord, même s'il ne s'est pas montré...
À qui ?
Le roi, Shaul, il n'a pas exprimé.
Non, mais il s'est caché dans les bagages, mais il aurait pu partir aux Bahamas. Hein. Il n'a pas fui, il s'est caché. Il n'a pas fui ses responsabilités. Il s'est seulement caché. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire.
Bah, que si, comme il ne s'est pas montré, le peuple peut ne pas avoir perçu compris qu'il avait cette position-là, il avait peut-être besoin qu'il y ait un positionnement.
Oui, c'est vrai, si vous voulez, il dit, et voilà, il est nommé par le prophète, il ne monte pas sur le podium, on le cherche, il est là, tout le monde, il est là.
Donc quelque part, c'est assez honnête, il ne peut pas leur en vouloir de quelque chose sur lequel il ne s'est pas positionné vis-à-vis...
Mais il est là quand même. Bon, c'est ambigu, alors c'est ça. Ce passage est difficile. C'est difficile, mais c'est considéré que c'était des fauteurs malgré tout. Et ceux qui l'ont accompagné, c'était des gens qui ont fait une démarche. Entre les deux, il y avait la majorité, très très grande majorité silencieuse. Hein? Alors, regardez, on va voir maintenant dans le chapitre suivant. Comment, finalement, il va devenir roi indubitablement? Alors ça, c'est un de mes passages préférés. C'est un de mes passages préférés. J'adore. Je suis addict. Pour ceux qui ont lu ou feuilleté le bouquin que j'ai écrit, c'est un passage, un gros passage du bouquin. Parce que j'adore ce passage. Chapitre Yud Aleph, chapitre 11, verset Aleph. Vous avez un texte ? Il y en a plusieurs. Ça. C'est bon ? Chapitre Yud Aleph, verset Aleph. Ok. Donc il y a eu, je reprends ce que vous dites, c'est que on pourrait dire que c'est un peu foiré, sa nomination. Hein. Sa désignation, il y avait... C'est un peu foiré, quoi. C'est un peu bizarre.
On dirait qu'il veut plébisciter.
Comment ?
On dirait qu'il veut pas.
Bon, s'il ne voulait pas, il aurait pu fuir. Il se cache, mais il se cache. Il ne fuit pas. Il ne fuit pas. C'est comme, par exemple, quand Dieu nomme le prophète Jérémie... Quand Dieu nomme Jérémie prophète, Jérémie, il refuse. Nous connaissons, quand Dieu envoie Jonas, il fuit. Il y en a qui fuient, lui, il ne fuit pas. Il ne se montre pas. Et les gens ne comprennent pas bien. Donc, ce que vous dites, hein, c'est bizarre. Bizarre. Maintenant, on va voir le chapitre 11, comment il va devenir roi indubitablement du peuple juif. Chapitre Yudalef, verset Aleph. Vayaal Nachash à Ammoni, Vayichan al Yavesh Gilad, Vayomru Kolanche Yavesh en Nachash, Krad lanubrit venavdeka. Et monté Nachash, ça veut dire le serpent. Et monté serpent l'ammonéen. Et il a fait le siège de Yavesh Gilad. Bien. Donc, c'est-à-dire, il y a la terre d'Israël et il y a les peuples autour. Un des peuples juste à côté, en Jordanie. Vous voyez, comment s'appelle la capitale de la Jordanie ? Amman. Amman, c'est Ammon. C'est le pays des gens de Ammon, descendants de Lot. Donc, il y a les gens, le roi de Ammon, il s'appelle Nachash. Tout un programme. Ouais, il s'appelle Serpent. Et il fait le siège de Yavesh Gilad. Alors, Yavesh Gilad, c'est une région frontalière d'Israël. Gilad, c'est où le Gilad ? C'est à côté, c'est un peu en bas du Golan. Vous voyez le Golan, donc c'est vers cette région-là, hein, un peu en bas du le Gilad, région de Gilad. C'est juste donc la frontière entre Israël, c'est un endroit du peuple juif, mais limitrophe de Ammon, les gens d'Ammon. Donc ce Nachash l'Ammonéen fait le siège de la ville des Juifs de Gilad, Yavesh, la ville de Yavesh dans Gilad. Et les gens de Yavesh dirent à Nachash, serpent, fais-nous une alliance, on te sert. C'est-à-dire, on ne veut pas de guerre, on accepte d'être tes vassaux, fais-nous une alliance et on est tes vassaux, on ne cherche pas de guerre, voilà, pas de guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il s'appelle Nachash l'Ammoni? Pourquoi il s'appelle serpent? Il s'appelle serpent aussi, il s'appelle serpent. Mais, alors, si je peux me permettre, j'ai un peu réfléchi à la culture des peuples du coin de l'époque. C'était, comme on voit dans la Torah, c'était des animistes. Vous savez qu'est-ce que c'est des animistes? Bon. C'est comme les Indiens d'Amérique. Alors, vous avez déjà vu des films d'Indiens? On peut, des fois, c'est difficile de comprendre des choses dans la Torah si on n'a pas vu des films d'Indiens. Alors, par exemple... non, mais en vérité, je suis sérieux. Ça paraît bizarre, mais c'est sérieux. Beaucoup, je me suis demandé, je me suis beaucoup intéressé aux cultures des Indiens d'Amérique du Nord. Pourquoi ? Parce que ça m'a interpellé. Ça a été une culture qui a été persécutée, massacrée. Puis nous, les Juifs, on est un peu comme ça. Alors je me suis dit, peut-être on a un destin commun. Bon, alors j'ai essayé de comprendre un peu. Et bon, c'est pas pareil. Hein. On est des fois les derniers des Mohicans, mais on a l'impression d'être des fois les derniers des Mohicans, mais à part, ça s'arrête là. Mais finalement, c'est quoi la culture des Indiens des plaines? Alors, vous avez déjà vu dans des films, par exemple, vous avez par exemple, une tête de bison sur le... Ils ont... momifier une tête de bison. Ou alors, par exemple, quand ils vont aller chercher dans la montagne, par exemple, des plumes d'aigle ou des choses comme ça. C'est quoi tous ces trucs-là? C'est qu'ils s'identifient à l'esprit de ces animaux. Ça, c'est les animistes ou les chamans. Les chamans, il y a encore aujourd'hui, dans des parties importantes du monde, il y a, en Sibérie, il y a des peuples qui ne sont pas tellement en contact avec la civilisation occidentale, et ils communiquent avec les esprits, communiquent avec les esprits des animaux. Alors, par exemple, quand ils vont faire la guerre, ils vont faire, par exemple, la chasse au bison. Alors, ils ne vont pas faire la chasse au bison comme ça. Ils vont d'abord communier avec les esprits des bisons. Alors, vous attendiez pas, hein, parce qu'on fasse un truc sur les jardins de la vie. Mais c'est très important pour comprendre ce qui se passe dans beaucoup de choses de la Torah, et beaucoup de choses du monde aussi. Beaucoup de choses du monde. Alors, je pense qu'ici, quand tu dis Nahash, c'était son animal tutélaire. C'est comme, vous savez, les scouts. Les scouts, ils ont des totems. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient aux EI ou aux scouts. Ouais, il y a des totems. Mais ça vient, les totems, de ces civilisations, etc. Que, donc lui, quand il s'appelle Nahash, pourquoi ? Parce qu'il s'identifie à l'esprit du serpent. Alors sur son casque est sculpté un serpent, parce que c'est l'esprit du serpent qui est à travers. Donc on voit déjà, c'est tout un programme quand même. Hein. Mais encore, je crois qu'encore, il y a des pays où quand ils partent à la chasse, par exemple, ils s'identifient avec l'antilope, avec le lion, avec... Et ils sont portés par des esprits spirituels de ces animaux. D'ailleurs, moi, j'ai lu des livres. Il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Maintenant, il est un peu revenu de ça. Mais il y a quelqu'un, il a travaillé là-dessus. Il a écrit des romans policiers pour expliquer ces choses-là. C'est Toby Nathan. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a enseigné longtemps ici, il était professeur à l'université, il a enseigné l'ethnopsychiatrie. Et il y a un livre que je vous conseille qui permet de comprendre des trucs là-dessus. C'est peut-être le premier livre qu'il a écrit, ça s'appelle « Le Dieu d'Op ». Je vous conseille, c'est excellent. Vous n'avez pas lu « Le Dieu d'Op » ? Non, c'est la drogue, mais toute une analyse sur la drogue à travers un roman policier qui vaut ce qu'il vaut, mais il explique des choses qui sont très très réelles en vérité. C'est des choses réelles. Il y a des gens qui viennent en France des fois de peuples d'Afrique ou d'ailleurs ou d'Asie. Ils arrivent dans les pays occidentaux et disent que ici c'est des pays barbares. Ils n'ont pas de spiritualité. Ils ne voient que la canette de coca, ça fait pchit, voilà, c'est tout. Il n'y a pas ce qui est derrière, ce qui est tout la dimension abstraite qui est derrière. On n'est que dans la canette, l'hamburger, voilà. Mais il y a des cultures, ils ne vivent pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Alors, c'est quand on parle dans la Torah de Kshafim, la sorcellerie, c'est l'animisme. C'est pas l'idolâtrie. Il y a une différence fondamentale entre la sorcellerie et l'animisme. Par exemple, vous connaissez le nom Rwanda ? Oui. Le Rwanda, si, d'après ce que j'ai lu, c'est un esprit totémique. Rwanda, c'est un esprit, comme je viens de parler, un esprit totémique. Bien. Alors, donc lui, il appelle serpent parce que toute sa vie, c'est l'esprit du serpent. Donc on voit déjà qu'il est sympa celui-là. Hein. On arrive, mais là, les gens de Yavesh, la ville de la région de Gilad, ils disent « Ok, on fait la paix. » ils n'ont pas envie de se battre, quoi. Ils n'ont pas envie d'être mangés tout cru. Ils disent, non, ouais, on fait la paix. Alors, c'est intéressant parce qu'en Israël, ils font beaucoup des recherches archéologiques. Et on voit que ces peuples cananéens étaient animistes. Ça, c'est clair. C'était ce dont on parle ici. Hein. C'était des peuples animistes. Des peuples qui étaient avec les esprits et les trucs, les machins. Comment ?
Comment ils ont prouvé ça ?
Non, mais on voit dans les statuettes, dans les trucs, les machins, dans les écrits en langue cananéenne, que c'était cette culture-là. Non, ça vous plaît pas ? Bon. En tout cas, je pense que ça explique beaucoup de choses dans la Torah. On voit pourquoi il appelait serpent, parce que c'est l'esprit du serpent. Ouais. Donc les gens de Gilad, de Yavesh Gilad, ils disent, okay, on ne veut pas se battre, ils ont la pétoche. Ils disent, on fait la paix. Fixe-nous les conditions de la paix, on les accepte. Verset suivant. Va yomer aleem nachash amoni bezot echot lachem binkor lachem kol ha'en yamin besamtia cherpa al kol Israël. Donc il dit, cher Nachash, fixe-nous les conditions de l'alliance et on fait la paix. Vayomer alem Nachash Amoni, Nachash le serpent, l'Ammonéen, leur dit, avec ça, je trancherai avec vous, sous-entendu l'alliance, en crevant pour vous tout œil droit. Voilà mes conditions. On vous crève à chacun d'entre vous l'œil droit et on fait la paix. Sympa, hein ? Il est le bien nommé, hein, il est sympa. Et dans l'œil. Vous comprenez que c'est sympa, je vous ai dit que ça commence à être sympa. Non, parce qu'avant il était pudique et tout. Comment ça, ça ? C'est plus sympathique. Alors, en vous crevant à chacun l'œil droit, et ça sera pour vous une honte pour tout Israël. Je veux dénigrer le peuple juif. C'est ce que je veux. C'est ça mes conditions, ça vous va ? Alors Rachid dit, c'est quoi l'œil droit ? Il y a deux sens. Premier sens, quand on comprend l'œil droit. À chacun, je vous crève l'œil droit et on fait la paix. Bien. Midrash Agada, Rashi rapporte le Midrash. Iviouli sefer toratrem, shenikne meyamin, shenitna beyamin. Amenez-moi votre livre de la Torah qui a été donné par la main droite de Dieu. Je la brûlerai sur le fait que c'est écrit dans la Torah, lo yavo amoni umuhavi bekal Hashem. Je ne veux pas de cette Torah. Je veux brûler la Torah qui s'appelle l'œil droit. L'œil droit, c'est une manière d'exprimer la Torah. Voilà. Je veux brûler la Torah. C'est ça ce que moi je veux. Une fois que la Torah sera brûlée, on fait la paix. C'est bon ? Voilà. Donc, il sait que les gens de Gilad ne vont pas accepter cette condition. Ça va être la guerre. Verset guimel. Va yomru elav zikne yavesh. Alors, les anciens de Yavesh dirent à Nachash, Cheref lanu shivat yamim, venishlecha malachim bechol gvul Israël, veim en moshia otanu, veyatsanu elecha. Donc, on est en pourparler. La guerre, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a d'abord des pourparlers diplomatiques. Il dit, voilà mes conditions. Kofi Annan n'est pas content. Ouais, il dit, ça ne respecte pas les droits de l'homme. Ça ne respecte pas les droits de l'homme. Il dit, ok, ça c'était condition. Nous, laisse-nous 7 jours. On va voir. Laisse-nous 7 jours. Ils dirent, les anciens d'Yavesh, Erev la Nushivat, laisse-nous 7 jours. Venishlecha malachim berol gvul Israël. On va envoyer des émissaires dans tout Israël. Vim em Moshia otanu, veyatsanu elecha. Si personne n'est là pour nous sauver, on sortira vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire, on sortira vers toi? On se rendra. On se rendra. Voilà. Verset d'Alette. Vayavou amalachim givat shaul, vaydabru advarim beozne ha'am, vayissu kol ha'am et kolam, vayifku. Arrivèrent les émissaires sur la colline de Shaul, là où il habitait, Givat Shaul. Vaydabru advarim beozne ha'am, ils parlèrent ces paroles-là aux oreilles du peuple. Vaïssou kolaam et kolaam vaïfkou, tout le peuple leva la voix et pleura. Donc c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est très très méchant celui-là. Très méchant. Très méchant. Qu'est-ce qu'on va faire? On est foutu. On est foutu. Ça va être la guerre. On va pas gagner, on va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la honte, c'est la catastrophe. C'est la crise. Voilà, c'est une catastrophe. Et tout le monde pleure. Verset suivant. Veine Shaul ba achare abakar minasade. Ça, c'est extraordinaire. On va relire doucement pour apprécier chaque mot. Veine Shaul ba acharei abakar minasade. Vayomer Shaul malaam ki ifku. Vayesapru lo et divrei anche yavesh. Et voilà, Shaul vient après les vaches du champ. Qu'est-ce que c'est après les vaches du champ? Rashi explique, c'est l'heure de la rentrée des vaches du champ. Il ramène. Vous étiez déjà à la campagne, ouais, vers le soir, on rentre les vaches. Ding, 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 les cloches. Ding, 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 ding. Il n'y a pas un petit... c'est bizarre, non? Comment?
Ouais, c'est bizarre.
Ah, ça veut dire c'est assez... Là, c'est un peu, c'est sympathique comme royauté, je veux dire, ils ramènent les vaches pour la traite, quoi. Non, mais c'est une ambiance spéciale quand même, hein. Comment? Ouais, mais spontané, quoi, il est resté simple, quoi, ils ramènent les vaches, bing, ding, 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 ding. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, nous, en ville, ça. C'est vraiment la campagne, quoi. On est à la campagne, on ramène les vaches, et ils ramènent les vaches. Vayomer Shaul, malam kifku. Il dit, mais pourquoi tout le monde pleure? Pourquoi tout le monde pleure? Vayisaproulo et divré anche yavesh. On lui a rapporté les paroles des gens d'Yavesh. Va titzlar ruar elokim al Shaul beshomo et advarim aile, va yichar apo meod. Va titzlar ruar elokim. Va titzlar. Traduisons pour les hébraïsants ou hébraïsantes. Comment? Oui, atzlacha. Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir aussi? On pourrait dire s'épanouir aussi. Salacha, comment dire, c'est ouvert, s'ouvrir. C'est ouvert le souffle divin sur Shaul. Yonatan ben Uziel traduit Shera trois gvura min kadan Hashem al Shaul. S'est posé un souffle de puissance qui venait de Dieu sur Shaul. Il y a eu un souffle divin qui a éclaté s'est ouvert sur Shaoul, quand il a entendu ces paroles-là, « Vayichar apo meod » il s'est mis terriblement en colère. Verset suivant. « Vayikar tsemed bakar » Vaynatechu vayeshalar bechol gevul Israël beyad amalachim lemor asher enenu yotze achare Shaul vaachar Shmuel ko yase lifkaro vaipol pachad Hashem al ha'am vayetsu keish echad.
Il entend ça.
Quoi? Vous avez peur de celui-là, mais c'est pas possible. Il s'est mis dans une colère terrible. Et le verset dit, Vaikar, Semed, Bakar, il a pris un attelage de taureau, Vainatechu, et il les a coupés en morceaux. Il a envoyé dans tous les territoires d'Israël par la main des émissaires en disant, celui qui ne sort pas après Shaoul et après Shmuel à la guerre, moi je ferai ça à son troupeau. Va Yetsu, ils sont tous partis comme un seul homme. Alors regardez, là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, un attelage de taureaux. Deux taureaux. Ouais, des taureaux. Vous avez déjà vu des taureaux? Ouais. Des taureaux, vous savez, des taureaux, c'est pas un petit caniche, hein. Des taureaux. Il a pris une hache. Il a pris une hache et vivant, il a déchiqueté d'eau. Et ils sont tous partis. C'est massacre à la tronçonneuse. Et là, paf.
Et c'est comme ça, il a gagné la guerre, c'est comme ça qu'il est devenu roi.
Tout le monde, il a vu. Ah.
C'est comme ça qu'il est devenu.
Là, il a construit le peuple juif. Là, si vous voulez, avant on a vu qu'il était un peu ouais. Et même il a loupé le coche. Mais là, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi et il a sauvé le peuple juif. Il a sauvé le peuple. Et là, c'est quelque chose de fondamental. Où on voit que casser, ben c'est pas seulement casser. Vous voulez que je refasse? Là, ça fait du essayer. On fait chacun son tour. On essaie. Quand on dit acting, théâtre, ouais, c'est le. C'est le. On fait un apnique. Chacun son tour, mime, de déchiqueter des taureaux vivants. Déjà, je suis sûr que couper des taureaux morts, faut déjà aimer, quoi. Hein? Surtout, bon, aujourd'hui, il y a des appareils électriques pour couper, mais à la hache, faut s'y reprendre, je sais pas, c'est... Mais alors, des taureaux vivants, ça doit... Imaginez le cri des taureaux, c'est pas mal, hein? Ça doit... Je refais. Ça fait du bien, ça comment dire, ça dégage les poumons, vous voyez ce que je veux dire, là, c'est... Et plus, si vous voulez. Bon, donc, c'est... Et là, c'est comme ça qu'il est devenu roi. Et cette thématique-là, on voit ici, il a sauvé le peuple juif, après, ça y est, c'est devenu la vedette. Après, il a surmonté son truc et il a construit le peuple juif. Maintenant, ici, il y a une thématique énorme. C'est est-ce qu'on construit en détruisant? Ça, c'est un problème. Alors, le Talmud analyse cette question. Parce que nous, on nous serine, faut pas se mettre en colère, c'est pas bien. Vous avez entendu l'idiotie internationale, la personne qui se met en colère, c'est comme s'ils se mettent, ils faisaient l'idolâtrie. Vous connaissez ce truc-là? Vous avez jamais entendu? Non, c'est le Talmud, on va le voir. Oui, Ramban dit ça, vous avez raison, absolument. Nachmanit dit ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on voit, là, c'est pas qu'il s'est mis en colère. Regarde, le verset dit... Il s'est mis énormément en colère. C'est pas qu'il s'est mis en colère. Il s'est mis énormément en colère. Si on dit avant qu'il a loupé le coche, là au contraire, là il a. C'était ça qu'il fallait faire. Et là il est devenu roi. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs étapes. Et juridiquement, pour qu'un roi. Je reprends votre prénom, excusez-moi. Oui, ce que Lise a dit tout à l'heure. C'est avant, les gens, ils n'ont pas vraiment compris qui c'est ce type-là, est-ce qu'il est roi ou pas roi, machin. Il y en a qui ont fait un effort et qui ont compris. C'était une minorité. C'était des gens... Achaïm, c'était des gens d'élite. Ok, l'élite a compris. Mais les autres personnes n'ont pas compris. Bien. Pour être roi, dans le droit juif, il faut deux conditions. Avoir été nommé par le prophète et accepté par le peuple juif. Nommé par le prophète, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 10. Mais accepté par le peuple juif, c'est maintenant dans le chapitre 11. Là, il va sauver le peuple juif. Et tout le monde va dire, alors là, vive le roi. Alors là, vraiment, tout le monde va dire de manière absolument convaincue, ouais, c'est lui qu'il nous faut. Donc tout le monde va l'accepter. Si le peuple juif, la majorité du peuple juif, n'accepte pas, il n'a pas le statut de roi. Prenons un exemple juridique. Lorsque David a été évincé par son fils Absalom, ouais, la majorité du peuple juif a suivi Absalom, David n'avait plus le statut juridique de roi. Donc ici, c'est deuxième étape, il fait cet acte de construction du peuple juif, de sauvetage effectif du peuple juif. Mais là, on touche, si vous voulez, un tabou. Il se met en colère. Mais pas il se met en colère. Il se met en colère énormément, dit le verset. Et pas seulement ça, et dans sa colère, il pulvérise. Mais c'est pas seulement, il casse quelque chose. Il déchiquette. Je le refais, si vous voulez, il prend deux taureaux, il les massacre, vivant, sans anesthésie. Imaginez le bruit, les taureaux, je pense qu'ils n'ont pas dû se laisser faire, ils ont dû faire « me ». Ouais. Et ça a dû faire un effet « bœuf ». Voilà. Ça fait un effet « bœuf ». Voilà. Alors ça, c'est thématique, et analysé longuement dans le Talmud. Alors, bon... C'est possible qu'il y en a qui ont, dans le livre que la plupart d'entre vous, vous avez, je mets, je ne sais pas combien de pages sur ce truc-là, 50 pages sur ce truc. Ouais. Mais on va essayer de faire ça oralement. On va commencer, je ne sais pas si on va terminer. Je vous passe une page du traité Shabbat qui analyse magnifiquement ça. Et on va voir des incidences dans la halakha, dans la loi juive. Nous sommes dans le traité Shabbat, la page Kouf et Amoud Bet 105b. Donc vous voyez, c'est là la référence, Kouf et Amoud Bet 105b.
Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. On va commencer la Mishnah. J'ai mis un trait là. Bien. Avant de commencer, quelques préliminaires. Shabbat, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit, Shabbat, c'est un jour où il y a 39 travaux interdits. 39 catégories de travaux qu'on n'a pas le droit de faire. Prenons un exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, comme ça? Construire. Comment?
Construire.
Construire quoi? Construire une maison, oui. Ça pas... Quoi?
Trier.
Pas le droit de trier.
Cuisiner.
Oui. Ça veut dire pas le droit de cuisiner.
Allumer le feu.
Ah, allumer le feu.
Les légumes.
Voilà. Mais on peut quand même assaisonner la salade. Hein, bon, c'est vrai, on n'a pas le droit de cuisiner. Hein.
Cuire.
De cuire. Pas le droit de cuire. Voilà. Comment?
Semer.
De?
Semer.
De sonner comment ?
Semer.
Semer. Ah, semer. On n'a pas le droit de semer. Voilà. Alors, il y a 39 catégories de travaux. Hein. 39 catégories. Ces 39 travaux, on les apprend des 39 étapes de la construction du tabernacle, du Mishkan. Parce qu'on voit dans la Torah, c'est écrit, voilà, vous construirez le tabernacle, vous construirez le Mishkan, ouais, sauf le Shabbat, stop. Qu'on voit, stop de ce qu'on vient de dire. Alors, les sages dans le Talmud, dans le 7e chapitre du traité Shabbat, nous analysent, on a par tradition orale, qu'il y a 39 travaux. 39 travaux. Bien. 39 travaux avec des dérivés. Je prends un exemple. On n'a pas le droit, donc toi tu dis, on n'a pas le droit de semer. Oui. Mais par exemple, vous avez un arbre qui a trop de branches. Élaguer un arbre est interdit du fait de semer.
Élaguer.
Élaguer. Oui, c'est en français. Ça veut dire... Ça veut dire... Vous avez un arbre qui a trop de branches. Et un, donc, comme cet arbre, il a trop de branches, il faut trop d'énergie... Pour nourrir toutes ces branches, et ça l'épuise. Donc pour que l'arbre soit plus solide, on coupe des branches. En français, ça s'appelle élaguer. Bien. Alors paradoxalement, oui, c'est faire que quelque chose pousse, ça c'est le principe. Parfois, pour que ça pousse mieux, il faut enlever quelque chose. Vous voyez, c'est des principes. C'est des principes. Autre exemple, vous avez un jardin où il y a trop de plantes. Arracher des plantes sera parfois interdit à titre de planter. Ça, c'est tout le traité Shabbat, c'est comme ça, c'est super, super classe. C'est parce que apparemment, on ne verrait pas que c'est à titre de ça, on verrait que c'est à titre d'autre chose. Tu vois, quelqu'un, il enlève des plantes, ouais, ben, tu dis, il cueille. Non, il n'est pas en train de cueillir. Il est en train de faire pousser. C'est juif. Alors, c'est un peu... Ok. Le point commun, que puisqu'on apprend de la construction du tabernacle, la construction du tabernacle est une construction. Donc il faut que les travaux interdits Shabbat, pour enfreindre ce qui est l'interdit de la Torah, ce sont des travaux qui construisent. Si par exemple, je casse quelque chose, eh bien, casser n'est pas construire, évidemment. Ouais. Casser n'est pas construire. Donc, si je casse, c'est... Je n'enfreins pas ce que la Torah dit. Ça pourrait être il y a, les sages ont mis dans les lois de Shabbat beaucoup d'interdits rabbiniques. Dans toute la Torah, il y a énormément d'interdits rabbiniques. Pourquoi il y a des interdits rabbiniques dans la Torah ? Pourquoi ? C'est pour casser les pieds, c'est pour quoi faire ? Pourquoi ? Je pense que vous attendez de moi que je prouve que c'est pour casser les pieds. Non, c'est pourquoi. Pourquoi il y a des interdits rabbiniques?
Déjà pour mettre en clair peut-être des choses qui ne sont pas pour tout le monde très claires telles qu'elles sont dans la droite. Et puis, et d'autres, elles sont pour mettre une double barrière pour ne pas arriver à faire ce qui pourrait être interdit.
D'accord, oui. On peut dire aussi, si vous voulez, que comme ce qui est interdit comme par la Torah, ce sont des choses extrêmement précises. Comme je viens de dire, une action voulue, pensée, construite. Il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas forcément voulues et pensées. Si, par exemple, il n'y avait pas les interdits rabbiniques, on pourrait, par exemple, il n'y aurait pas de Shabbat. Je prends un exemple. Il y a quelqu'un, il pourrait mettre, par exemple, d'après la Torah, on pourrait demander à quelqu'un qui n'est pas juif de faire des travaux de Shabbat pour moi. C'est interdit rabbinique de demander à un non-juif, moi je n'ai pas le droit de faire quelque chose, alors de demander à un non-juif de le faire pour moi, d'après la Torah, ce n'est pas interdit. Donc le matin, j'ai la flemme d'aller à la Sina à pied, ouais, je dis à mon chauffeur, Nestor, ouais, sortez la Rolls-Royce, oui, il ouvre la porte, je vais dans la Rolls-Royce, Nestor, bon, on va à Chasseloup-Loba, oui, vous pouvez mettre, je veux savoir les dernières frasques de Sarkozy, vous pouvez mettre la radio, s'il vous plaît, non, pas ce truc, ça finalement, on ne transgresserait pas la Torah. Donc on peut comprendre que pour qu'il y ait un peu une ambiance shabbatique, ils ont dit on ne demande pas à un non-juif de faire. Maintenant, c'est vrai que quand, par exemple, quelqu'un est malade, il faut demander à quelqu'un qui n'est pas juif de faire, évidemment. Donc il y a des lois, quand est-ce que oui, quand est-ce que non. Ben, disons, je ne sais pas, moi, on est shabbat ici à la Sina, il y a un gosse, il fait ça. Et on est 50 à la Sina, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors là, il faut demander à quelqu'un qui n'est pas juif. Vous voyez? Donc il y a des halakhot. Quand est-ce que oui, quand est-ce que non? Mais en vitesse de croisière, on n'a pas le droit. Ça, c'est un interdit rabbinique. Donc il y a plein de choses comme ça. Je dirais, 85% de la vie juive, c'est des interdits rabbiniques. Je prends encore un exemple pour... On n'a pas le droit de manger la viande avec du lait. Alors, d'après la Torah, on n'a pas le droit de manger de la viande d'un mammifère avec du lait. Alors, du poulet à la crème, c'est un interdit rabbinique. Comprenez? Comprenez pas? Ouais. Parce qu'en vérité, une escalope de veau, une escalope de poulet, ça se ressemble. Après, si tu permets, on va s'embrouiller les pattes. Qu'est-ce que c'était cette escalope? C'était du veau, c'était de la dinde, c'était du quoi? Ouais. Alors les sages, ils ont interdit rabbinique. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc je reprends. Dans les lois de Shabbat, qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est interdit d'après la Torah? Ce sont des travaux qui construisent. Je fais quelque chose, mais ça ne construit pas. J'abîme. Eh bien, ce n'est pas comme les travaux du tabernacle. Je n'ai pas transgressé Shabbat. Ça s'appelle, c'est patour. Quelqu'un l'aurait fait, il est exempt, il n'est pas condamnable. Quelqu'un transgresse, à l'époque du temple, quelqu'un transgresse les lois de Shabbat sciemment, il est, à l'époque du temple de Jérusalem, il est condamnable en pénal. Condamnable en pénal. Alors maintenant, on prend le début du texte.
Est-ce que c'est de la Torah de détruire dans le but de construire?
Ah. Ça peut être, ça peut être interdit d'après la Torah. Alors regardez la Mishnah. A Korea Bechamato, donc c'est dans le traité Shabbat, la personne qui déchire son vêtement dans sa colère. Oui. Ben, c'est la première. Regardez, j'ai fait un petit trait. Voilà.
A Korea Bechamato, la personne qui déchire son vêtement dans sa colère. Valmeto, qui déchire son vêtement sur son mort. Vekol Amekalkelim, Pturim, tous ceux qui dégradent, Pturim sont exempts, n'ont pas transgressé Shabbat. Il y a quelqu'un, il est furax. Ouais. Comme Shaoul, là, il est très en colère. Très en colère. Quand est-ce qu'on est en colère? Shabbat. En semaine, on n'a pas le temps d'être en colère. Ça, c'est un sujet important. En semaine, on bosse, on n'a pas le temps de se voir. C'est quand on se retrouve que c'est toujours... Quand est-ce qu'il y a des scènes? Il y a les repas familiaux. Ouais. Il dit à son frère, « Salaud, fumier... Ouais. » Qu'est-ce que tu dis? Mais redis-le, frère, salaud! Ouais, mais ça, c'est shabbatique. C'est quand on se retrouve qu'il y a des problèmes. On n'a pas le temps de se retrouver. Tout va bien. Alors, donc, on se retrouve et Shabbat, il est tellement en colère, il déchire sa chemise. J'en ai marre! Ouais. Alors... J'aime bien ces sujets. Ça me détend. Non, je sais pas. Ça. A Korea Bechamato, quelqu'un qui déchire dans sa colère, ou bien il déchire sur son mort. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il apprend que je sais, un proche à lui est mort. Et de tristesse, il déchire son vêtement. Et quand la me calque libre, toute personne qui dégrade n'a pas transgressé Shabbat. Parce qu'il a abîmé, il a dégradé, n'est-ce pas? Alors, ça va? Merci, et vous? Alors, regardez, maintenant, on passe, ça c'est tout ce qu'il faut dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara, Gimel même, ça veut dire Gemara. C'est le Talmud. Donc ça, c'est une page de Talmud. Le Talmud est comment dire, il y a Mishnah et la Gemara. Qui c'est qui m'explique c'est quoi la différence entre la Mishnah et la Gemara?
La Mishnah est orale, c'est une tradition, c'est la tradition orale. Et la Gemara, c'est...
Les commentaires de la Mishnah.
Comment?
Les commentaires de la Mishnah.
Ouais, c'est les commentaires, les contradictions pour mettre à jour le qu'est-ce que la Mishnah est en train de dire. Alors la Mishnah, ce sont des principes de tradition orale qui ont été rédigés grosso modo en l'an 200, je sais pas quoi, de l'ère commune, par Rabbi et les sages qui étaient avec lui, Rabbi Yehuda Hanassi, voilà. Ensuite, il y a eu plusieurs siècles de débats, et ça, c'est une page du Talmud de Babylone, c'est-à-dire, ce sont les débats qui sont faits à Babel, c'est en Irak, parce que le gros de la communauté juive était en Irak. Voilà. Et donc, pendant des siècles, les Mishnayot ont soulevé des débats, parce que, comme on va voir, une Mishnah dit ça, il y a une autre Mishnah qui dit le contraire. Et alors, comment c'est possible? Comment résoudre cette contradiction? Ça, c'est le Talmud. Bien. Alors, Gemara, Urminu, on objecte. Alors, le Talmud est écrit en araméen. La Mishnah est écrite en hébreu, mais la Gemara, c'est en araméen, qui était la langue de l'époque. Urminu, on objecte. Donc, on voit dans la Mishnah quelqu'un qui déchire dans sa colère, n'a pas transgressé Shabbat. Urminu. Là, un autre texte dit « A Korea, Bechamato, ou Be'evlo, Valmeto, Chayav. » Un autre texte qui dit « La personne qui déchire dans sa colère, dans son deuil, et dans son, pour son mort, Chayav, il a transgressé Shabbat. » Donc, c'est une contradiction. Le premier texte nous dit la personne qui déchire dans sa colère n'a pas transgressé Shabbat, Et le deuxième texte nous dit, la personne qui déchire dans sa colère a transgressé Shabbat. C'est pas bien ça. Ok ? Alors regardez, comme je vous propose que nous arrêtions sur ce suspense, ouais, torride, hein, insupportable. Et on va pas tenir. Alors regarde, ce que vous pouvez faire, vous avez mon livre. Alors non mais parce que devoir. Non, regardez, ce que je veux dire, c'est que je sais que quand on lit dans le livre, c'est pas facile parce que il y a beaucoup de données, c'est pas facile. Mais si vous voulez déjà explorer le sujet, je vous donne les pages où c'est dit. Hein? Et la semaine prochaine, on peut, parce que, regardez, là, il faut 1h30 pour mettre au clair la réponse. Je ne peux pas, là, en 5 minutes, 10 minutes, c'est impossible. C'est un sujet extraordinaire, très, très, très important. On ne peut pas le faire en 5 minutes. Je vous dis les pages, comme ça, c'est devoir pour la semaine. Voilà, une seconde, j'y suis. C'est page 65, étude d'un passage traité Shabbat 105b. Voilà, nous y sommes. Page 65. À 82. Ah, c'est pas, c'est 20 pages, même pas. Ouais. Oh, c'est cool, je crois que c'était plus. Voilà. 65 à 82. Voilà. Bien.
Ok, à bientôt.